Tout en restant debout, nous allons lire ensemble la parole de Dieu qui se trouve dans Malachie. Malachie au chapitre 4, nous allons donc lire ensemble tous les versets de ce chapitre. Malachie au chapitre 4. Si vous avez trouvé, donc nous allons lire ça au nom de Jésus. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne le laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Le verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que le Seigneur trouve un écho favorable dans le cœur de chacun de nous ce matin. Asseyez-vous. Nous souhaitons la bienvenue donc à frère et sœur Vimboli. Sans autre, nous allons laisser la parole pour rompre le pain de vie.
Nous sommes dans cette dynamique d'évangélisation puisque nous nous préparons pour le mois d'octobre et on vient de le chanter à travers ce cantique 531, la motivation et ce qui nous pousse aussi à la mobilisation. Cherchons-les. Vous avez entendu donc ce drame qui a touché la famille Nayagom, évidemment, hein, donc on en parle parce qu'on prie pour cette famille et malheureusement le corps, la mère n'a pas rendu ce qu'elle a pris et on peut comprendre le déchirement familial. Cet après-midi, donc, il y aura un service religieux en mémoire d'un de nos membres, quelqu'un donc, qu'on a connu, je pense, pour une majeure partie parmi vous. En tout cas, donc, cet après-midi, à 14h30, il y a un service à l'église de Saint-Louis. Et même si la photo n'est pas très bonne, parce que c'est sa fille de 17 ans, Laurence, qui me l'a envoyée hier soir. Donc, vous avez ici notre frère. Il me semble que la dernière fois que je l'avais vu, c'était ici même à l'église du Tampon pour la cérémonie de baptême. Il était là à l'entrée, à la porte. Hein. Donc, nous vivons cela, nous aussi, comme un deuil, puisque nous solidarisons avec la famille Nayagom. Mais l'Église adventiste est aussi frappée par d'autres drames qu'on entend ou qu'on n'entend pas, moins sans doute moins médiatisés, puisque dès que c'est comme cela, donc on en a parlé à la télé, à la radio, dans les journaux. Nous avons un jeune frère, c'est un jeune, et si je pense à lui spécialement aujourd'hui parce qu'on vient de terminer le mois de la jeunesse, il s'agit de Sébastien Virasamy. C'est un autre drame, vous savez. Sébastien a connu l'évangile avec l'association des étudiants adventistes. Et il a été séduit par le message de Jésus-Christ à travers cette église. Et il a été faire ses études à Sambain, ses études de théologie. Et c'est un excellent prédicateur quand il est revenu à Saint-Paul. Nous l'avons mis justement à la prédication. Et un jeune avec beaucoup de talent, puisque c'est aussi un mathématicien, il avait fait ses études dans ce domaine-là. Il donnait des études aussi à des enfants en soutien scolaire, et il traverse actuellement un moment extrêmement difficile. Il erre dans les rues de Saint-Denis, et sur Freedom, on en avait parlé, dans les journaux cette semaine, on avait émis un avis de recherche, et l'Église a beaucoup prié parce qu'il est membre de notre Église. Et c'est aussi un jeune qui est très prometteur. Et ça nous fait d'autant plus mal. Là, il est baptisé. Il a été baptisé à l'église de Moufia, parce qu'il y a des membres de Moufia ici. Je pense que vous vous rappelez de Sébastien. C'est un jeune, on l'a retrouvé, la police l'a retrouvé, mais pensez bien qu'il avait abandonné tout son matériel, tout son partage, tous ses sacs, avec son ordinateur portable, là-bas au cimetière de l'Est, près du fond de mer. On comprend pourquoi la famille s'est affolée, parce qu'on pensait donc que le drame fatal était là, et puis par la grâce de Dieu, on l'a retrouvé, mais il refuse d'intégrer. Il traverse un passage extrêmement difficile au niveau d'une dépression qui le paralyse complètement. Donc, il erre comme n'importe quel SDF dans les rues. Et je le cherche cette semaine, je suis allé à Saint-Denis. J'ai eu l'occasion de le chercher, mais c'est très difficile de le trouver. Il faudrait qu'on puisse aussi le mettre dans notre prière ce matin, puisque c'est aussi un de nos jeunes. Et on a besoin de lui. Demain, ce sera sans doute, et on prie le Seigneur dans ce sens, un pilier de l'Église adventiste à La Réunion. Mais pour le moment, il traverse un drame, et toute la famille qui n'est pas adventiste traverse aussi ce drame. Alors je voudrais vous proposer ce matin que nous puissions prier ensemble, si vous voulez bien, à la fois pour la famille Nayagom, de Saint-Louis, et puis pour notre jeune frère Sébastien Virasamy. Je vous propose donc, nous allons incliner la tête et nous allons présenter ces personnes au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voyons que la loi des séries qui frappe le monde en ce moment frappe aussi notre Église. Il est sûr et certain, Seigneur, qu'un mouvement de réaction nous amène à penser que cela n'est pas justifié, que cela n'est pas normal. Cependant, Seigneur, nous sommes devant ta face, impuissants et cherchant à comprendre. Mais ce matin, Seigneur, c'est juste un acte de foi, un acte de solidarité dans la foi qui nous pousse tous, autant que nous sommes dans cette salle ce matin, à soutenir la famille Nayagom, Béatrice avec ses trois enfants qui passent par ce moment douloureux et difficile, mais aussi, Seigneur, qui nous pousse à te prier pour le jeune Sébastien Virasamy. Nous te demandons, Seigneur, d'être à ses côtés, de lui donner cette consolation que toi seul peux apporter, mais aussi cette guérison, car même à distance, et cette distance qui sépare Tampon de Saint-Denis, nous sommes animés par ce zèle, par cet amour, cette compassion de Jésus-Christ qui nous pousse à faire appel à cette puissance. Qu'au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Sébastien soit guéri. Car seul Jésus-Christ peut le prendre en main. Et nous te demandons de sauver ce jeune. Et Seigneur, de nous placer sur son chemin. Et si tu places quiconque parmi nous sur sa route, accorde ton inspiration par ton Esprit Saint à cette personne afin que les mots, la formulation, la consolation humaine à travers les phrases, à travers l'inspiration de ta parole puissent venir facilement. Merci, ô notre Dieu, ce matin, de prendre soin de toute la famille Nayagom, de prendre soin de Sébastien, mais aussi de sa famille qui se trouve actuellement dans cette désolation. Et nous te prions, Seigneur, d'entendre notre prière, d'exaucer notre prière, de dépasser les mots même de notre prière, au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur, en qui nous t'en prions. Amen. Voilà, pour ce moment d'intercession qui est nécessaire pour que nous puissions solidariser au maximum, continuons nos prières d'intercession. Merci d'avance pour ce que vous ferez pour cela. Nous allons vers le mois d'octobre, dans la campagne d'évangélisation. Nous serons donc au niveau de Sud-Léo et particulièrement dans la ville de Tampon, puisque c'est là le souhait que nous avons émis. Et nous travaillons. Et je voudrais, à partir de ce sondage qu'on a fait il y a quelque temps, vous vous rappelez, je vous avais donné un genre de formulaire avec des cases à cocher, avec des thèmes, et nous avons essayé de recouper les différents thèmes, et je pense que ce que nous aimerions vous proposer, alors faites bien attention, la fiche que vous allez voir sur cet écran n'est pas la fiche définitive, mais c'est un support pour exciter votre motivation quelque part et vous amener à vous mobiliser, à participer déjà avec nous. Donc, voici une proposition de thème, mais nous n'avons pas encore la formulation de ce thème. Mais on a besoin, puisqu'on travaille en collaboration avec vous, nous avons besoin aussi de votre apport, en plus de votre support, pour pouvoir être amené à communiquer un événement, à communiquer à la société sur Léo, un événement, un message, donc finalement, que nous voudrions leur apporter. Alors, voilà ce qui semble sortir de cela. Donc, il y a une demande que la crise actuelle, les événements actuels soient abordés en rapport avec les prophéties bibliques. Mais en étudiant de près cette thématique, je me suis rendu compte que plusieurs propositions que vous avez émises peuvent être intégrées. Et je pense qu'il y a des propositions d'éthique qui me paraissent vraiment intéressantes et qu'on pourrait ajouter à cela, c'est-à-dire intégrer là-dedans pour que nous puissions apporter à la population tamponnaise, à la population de l'ensemble du Sud-Léo, un message qui certainement corresponde à leurs besoins. Ce que nous avons mis ici, en tout cas dans la formulation, dans le titre, n'est pas définitif, puisque donc voilà, il y a plusieurs propositions possibles, hein, prophétie et actualité, éclairage prophétique, les événements avec un sous-titre, les événements actuels à la lumière des prophéties bibliques, etc. Voilà. Nous attendons vos propositions, car certainement, je pense, hein, que vous avez une meilleure formulation pour mettre sur ces affiches, sur ces communications, qu'on voudrait transmettre à ceux du dehors. Voilà, nous allons donc aborder le thème de la prophétie biblique et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ce monde. Puisque de toute façon, dès qu'on aborde la prophétie, c'est bien de cela qu'il s'agit, de comprendre le temps dans lequel nous sommes. Eh bien, j'ai adapté du coup ma prédication de ce matin tout en restant dans la lignée de ce que je développe avec vous depuis quelque temps, depuis que vous me voyez finalement. La dernière fois que j'étais avec vous, c'était au mois de juin, j'avais abordé le point de la création, du moins un aspect de ce problème que l'évolution pose et que finalement la science n'est pas si scientifique que cela, n'est pas si solide que cela. Mais cela a suscité pas mal de questions au milieu de vous. Eh bien, j'espère que nous aurons l'occasion d'y répondre. Voilà. Bien, alors, frères et sœurs, disons-le tout de suite, il n'est pas possible d'être un messager, d'être donc porteur d'un message prophétique qui éclaire les événements actuels si nous ne voyons pas clair sur le messager que nous sommes. Et remarquez bien que le messager, ce n'est pas le pasteur, le messager, c'est l'Église adventiste, c'est-à-dire c'est l'Église du tampon, entre autres. Et la question mérite d'être posée. Le message qui va être donné par un messager, okay, mais qui est ce messager? La question est, qui sommes-nous? Il n'est pas possible non plus de pouvoir penser. D'abord, la question de l'identité n'est pas facile à résoudre. Hein. Il faut le comprendre et je pense pouvoir ce matin aborder ça un instant avec vous. Mais écoutez bien ceci. Si nous ne passons pas par une transformation, nous ne pourrons pas donner le message de l'explication de ce qui se passe, par exemple, actuellement au Proche-Orient, par exemple, vous entendez, hein, la loi des séries avec les catastrophes aériennes, par exemple, on entend, le monde est troublé. Nous avons une explication. Même, par exemple, concernant la réforme territoriale en France, vous avez entendu parler le millefeuille territorial, vous entendez parler de ça. Sachez que cela aussi contribue à cette évolution vers l'aboutissement prophétique. Comment ? Bon, ben, ça, c'est quelque chose voilà, qu'on peut développer en une heure ou en une minute. Hein, mais ce n'est pas le problème de ce matin. C'est pour vous dire que si nous sommes le messager prophétique, nous devons être capables d'exposer, de proposer au monde une explication en rapport avec ce que la Bible dit. Mais d'abord, ce matin, je vous propose que nous puissions faire un tour sur nous-mêmes, nous examiner nous-mêmes. Ce texte-là, je l'avais déjà pris il y a deux prédications de cela. Je le reprends avec vous. Lamentations, chapitre 3, et le verset 40. Je vous invite à le prendre, hein, Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, chapitre 3 et le verset 40. Il y a ici un appel, en quelque sorte, qui nous est adressé. Le peuple prophétique doit pouvoir atteindre cette prise de conscience. Qu'est-ce qui est dit ici, verset 40 ? Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Je vous avais déjà proposé la dernière fois dans notre version qui me semble un petit peu plus précis, Maritsu, Crampon, Hostie par exemple, où nous recoupons ces thèmes, ces verbes qui sont là, où l'Éternel nous appelle à nous examiner, à scruter, c'est-à-dire à observer précisément, scruter notre conduite. Et ensuite, dès qu'on l'a examiné, dès qu'on a scruté de près, on nous demande de retourner. Retournons au Seigneur, de prendre cette décision-là. Une autre version, la Bible en français courant par exemple, examinons de près notre conduite et revenons au Seigneur. Nous sommes une église sensible à ce qu'on appelle réveil, sensible à ce qu'on appelle réforme. Nous voulons cela et c'est une noble, une belle aspiration, mais qui ne reste malheureusement qu'au niveau de l'aspiration. Pourquoi ? Parce que cet examen individuel, personnel ou familial, cet examen n'est pas fait. Nous voulons un changement dans l'église, mais sans vouloir changer soi-même. Or, ce n'est pas possible. Donc, disons-le, si par exemple, ce matin, nous disons au Seigneur, nous voulons porter un si beau message dans la société tamponnaise, le Seigneur va dire, mais pas de problème, mais vous ne pouvez le faire que si vous collaborez avec ma puissance. Or, comment collaborer avec la puissance de Dieu si on ne s'examine pas, si on ne revoit pas certains de nos fonctionnements, si on ne revoit pas notre façon de vivre, particulièrement au niveau chrétien, quoi, en quelque sorte. Okay? Donc, nous sommes appelés à une réforme, mais à une réforme qui touche avant tout chaque individu. Posons quelques principes. Quand nous parlons de vision prophétique, une vision prophétique s'intègre toujours à une vision historique. L'histoire, ce n'est pas simplement le passé. La prophétie, ce n'est pas simplement l'histoire passée. Le passé établit la racine qui nous permet de nous situer, de situer notre identité. Mais quand nous disons la vision prophétique s'intègre à l'histoire, mais c'est aussi l'histoire présente, ce qu'on appelle donc l'actualité. L'actualité, c'est l'histoire présente. C'est-à-dire ce qui se déroule sous nos yeux, ce que nous entendons, ce qui nous effraie, ce qui nous trouble, ce qui nous amène à nous poser plein de questions. C'est ça l'histoire dans laquelle vous êtes. Eh bien, dès lors que vous cherchez à vous situer en vision prophétique, il faut l'intégrer forcément au monde qui nous entoure. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Autrement dit, la prophétie, ce n'est pas pour nous. La prophétie, c'est vraiment pour comme un guide, pour un monde qui en a besoin, parce que le monde est en perte de repères complet. C'est-à-dire, donc, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers tout cela. Voilà, le peuple de Dieu va se positionner comme tel. Okay? Avoir une vision prophétique nette et claire demande à avoir une vision historique nette et claire. Et l'histoire vise même l'histoire future, puisque grâce à la parole prophétique, l'Apocalypse, qui veut dire dévoilement, justement, aura dévoilé un petit peu donc les choses qui sont devant nous. Alors, lorsque nous parlons de prophétie dans la Bible, il y a en fait deux types de prophétie. Il y a ce qu'on appelle la prophétie classique, dans ce sens-là, presque toute la Bible est prophétique. Lorsque, par exemple, la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, lorsque Pierre dit, voilà, toute parole prophétie, la parole prophétique, okay, ça n'a pas été donné par les hommes, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a la prophétie dite classique et la prophétie dite apocalyptique. La prophétie dite apocalyptique, c'est une densité d'informations dans un langage symbolique qu'on est appelé à comprendre à partir de la Bible elle-même, puisque la Bible décode. On comprend la Bible par la Bible. La Bible explique la Bible. Et Dieu a mis dans l'Ancien Testament un livre de prophétie apocalyptique et dans le Nouveau Testament un livre de prophétie apocalyptique. Lesquels ? Dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Daniel, et dans le Nouveau Testament, c'est le livre de le livre de Révélation ou l'Apocalypse. Nous avons Daniel et Jean. Et on constate que donc, dans la Bible, nous avons deux livres de prophéties essentiellement apocalyptiques et ces deux livres ont été écrits par deux hommes à deux époques différentes, mais qui présentent des caractéristiques semblables. Parce que être prophète de la prophétie apocalyptique a des conséquences dans sa vie personnelle. Prenons par exemple, ces deux hommes sont tous deux exilés. Ils connaissent l'exil, ils connaissent des périodes de troubles, ils connaissent le déracinement, okay, ils connaissent un changement de culture. Daniel est exilé à Babylone, tandis que Jean est exilé où ça ? L'île de Patmos. Voilà, ok ? Ainsi donc, nous avons bien posé dans l'Ancien et le Nouveau Testament deux livres de prophétie apocalyptique. Donc la prophétie apocalyptique prend une intensité extrême, grave, au fur et à mesure qu'on se rapproche du dénouement. Ok. Puisque cela commence avec le livre de Daniel, la statue de Daniel est donc le point de départ de la prophétie apocalyptique. C'est donc au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est un schéma que j'ai eu l'occasion aussi de mettre devant vous. Voilà. La prophétie apocalyptique démarre avec la statue de Daniel. Qu'est-ce que cette statue nous révèle ? La fin de la statue, il y a une pierre qui se détache sans le secours d'une main et qui vient frapper, pulvériser la statue. La statue représentant l'histoire humaine, qu'est-ce que Dieu laisse entendre ? C'est qu'il ne laissera pas l'histoire humaine aller indéfiniment. Autrement dit, donc entre ici le point du temps. Dieu donne un temps à l'humanité pour faire ses preuves, mais il y a un moment où Dieu va pulvériser l'histoire humaine. Autrement dit, donc, l'histoire dans laquelle nous sommes n'est pas une histoire qui est appelée à durer indéfiniment. Mais nous avons des repères déjà même dans la statue, parce que la statue correspond à la prophétie de base qui nous permet ensuite de comprendre tout le reste, le livre de Daniel, mais aussi le livre de l'Apocalypse. Puisque cette statue nous donne une géographie, un topos, comment dire, un lieu, que cette histoire, l'histoire de l'humanité, se terminera avec comme point névralgique, comme point central, l'Europe. Autrement dit, et déjà seulement avec la statue, on comprend que l'Europe va retrouver les devants de la scène mondiale. Actuellement, ce n'est pas encore le cas. Mais l'exercice prophétique à travers l'actualité, c'est de voir, c'est de confirmer. Est-ce que c'est bien ce à quoi nous assistons ? Car actuellement, la première puissance reste les États-Unis, talonnée par la Chine, et bien d'autres pays émergents comme l'Inde, le Brésil, commencent à montrer leur profil. OK, mais si vous êtes quelqu'un qui croyait en la Bible, nous sommes ici avec une révélation où on nous dit que la prépondérance de la puissance va se situer du côté de l'Europe. Donc, prêtez bien l'oreille. Et là, nous aurons l'occasion, effectivement, soit dans les conférences, si jamais on n'a pas eu le temps entre nous, de faire la démonstration que l'Europe est bien en train, tout à fait conforme à la prophétie, en train de reprendre la première main, comme au Moyen-Âge. Je peux vous dire à quel point nous sommes précis dans cette affaire. Bon, écoutez, voilà la statue. La statue nous a donné un certain nombre de royaumes. Si je le mets, c'est pour que nous puissions bien voir, puisque nous sommes en train de parler de la prophétie apocalyptique, les deux livres, Daniel et l'Apocalypse. Qu'est-ce que nous constatons lorsque nous mettons la statue de Daniel ? C'est que le premier prophète de la prophétie apocalyptique apparaît dans le premier royaume. Le deuxième prophète de la prophétie apocalyptique, qui scelle d'ailleurs l'ensemble de la révélation biblique, le livre de l'Apocalypse, apparaît dans le dernier royaume, dans le dernier empire universel. Et cela, il faut comprendre que cela a des conséquences, cela aura des répercussions dans l'histoire de ce monde. On verra, parce que ça, c'est des études qui demandent évidemment des heures, hein, mais j'essaye de vous faire une petite synthèse en espérant que vous comprendrez au moins le minimum de cela. Écoutez bien ça. Cette statue aura duré jusqu'à aujourd'hui 25 siècles. La statue, vous l'avez ici sous forme de frise maintenant, sous forme de schéma. Okay ? Rappelez-moi, quels sont les quatre empires universels, le premier au 6e siècle ? Babylone, ensuite ? Les Perses, ensuite ? La Grèce, et ensuite ? Rome. Voilà. Alors ensuite, bon, il y a cet éparpillement. Vous avez donc l'établissement de l'Europe, et puis ça se poursuit jusqu'à la fin. Le livre de l'Apocalypse va combler toute cette partie qui se trouve ici. Daniel aussi en partie. Mais le livre de l'Apocalypse va donner un certain nombre de précisions très importantes pour le peuple de Dieu pour savoir comment se diriger là-dedans. Le problème qui se pose, c'est un problème de temps. Car le temps passe, comme nous disons, 25 siècles, ça fait quand même, ou 26 siècles, ça fait quand même 2600 ans. Depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2600 ans qui se sont écoulés. 2600 ans de la prophétie apocalyptique. On va dire, c'est long, et c'est long effectivement. Pas à l'échelle de la prophétie apocalyptique. Écoutez bien. Regardez, à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au retour de Jésus, le ciel considère toute cette période comme un seul bloc prophétique, comme un seul bloc historique. Autrement dit, si Daniel vous paraît loin, puisque Daniel, lui, il apparaît ici, et que nous, nous sommes quelque part ici, pour le ciel, vous êtes contemporain de Daniel et de ses compagnons. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez dans la même époque, c'est comme si vous êtes dans la même période. Étant donné que nous sommes dans le même bloc prophétique, même bloc historique, vous êtes contemporain. Ça peut paraître déjà extraordinaire parce qu'il y a tant de siècles qui nous séparent. Mais cela nous amène et nous oblige à comprendre la notion du temps. Comment s'explique le temps dans la parole de Dieu? En grec, vous avez deux mots pour définir le temps. Vous avez le chronos, et vous avez le kairos. Qu'est-ce que le chronos? Le chronos, c'est ce qui a donné chronologie, chronomètre. C'est le temps cyclique et répétitif. Les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, le mois et les années. C'est-à-dire ça s'écoule successivement, okay, à peu près de la même manière. Donc, par rapport au chronos, on va dire c'est long. Car combien parmi nous n'a pas dit au moins une fois dans sa vie, Jésus revient bientôt, mais c'est long, ça fait longtemps qu'on entend. Pourquoi? Parce qu'on raisonne par rapport au chronos. Mais il y a un autre mot qu'on traduit par le mot temps en français dans la Bible, c'est le mot kairos. Qu'est-ce que le kairos? Le kairos n'est pas le temps chronologique, mais c'est le temps décisif de la grâce. Et le kairos va couvrir cela. Autrement dit, regardez bien, depuis l'époque de Daniel, on dit que Jésus revient. Or, Daniel aurait dit, Jésus revient bientôt. Il n'aurait pas été faux. Pourquoi? Parce que l'événement décisif de la grâce et du dernier moment de la grâce commence à son époque. Voilà, officiellement, on annonce officiellement que Jésus va revenir. Et ça ne va pas tarder. À l'époque de Paul, on va dire aussi la même chose. Depuis 1844, l'Église adventiste prêche que Jésus revient bientôt. Est-ce qu'on se trompe? On ne se trompe pas. Sur le plan chronos, le plan chronologie, vous pouvez avoir l'impression, mais ça fait longtemps qu'on nous rabâche la même chose. Mais pas sur le temps kairos. Le temps kairos, okay, c'est maintenant. Ça vient. Autrement dit, si moi et Daniel, on est contemporains sur la même période, eh bien, c'est sur la même période que Jésus revient aussi. Or, regardez bien, vous allez dire, mais ça fait 70 ans que j'entends ça, ça fait 40 ans que j'entends ça. Sans doute, parce que nous souffrons sur cette terre, et plus vous souffrez, plus vous finissez par trouver effectivement le temps long. Mais le mot équivalent, Jésus va l'utiliser une fois face à Marie, lorsque, au tout début de son ministère, lorsque Jésus dit à Marie, mon heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un événement soudain, inattendu, qui apparaît dans la vie de Jésus. Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Autrement dit, dans l'esprit de Jésus, il y avait un événement qui devait arriver à un certain moment. Mais Marie arrive et lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Marie met la pression. Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est le kairos qu'il parle. C'est-à-dire donc, il y a un moment où quelque chose doit se faire, mais tu m'obliges à accélérer. Tu crées un événement, tu crées une obligation qui m'oblige justement à aller plus vite. C'est bien ça. Et c'est ça la base sur laquelle nous devons commencer à réfléchir. C'est que le kairos, dans le kairos, l'événement est soudain et inattendu. Nous pourrions parler, par exemple, puisqu'on a parlé de lui, de Claude Nayagom ce matin. C'est un homme qui, certainement, ce mercredi matin, il y a une dizaine de jours, avait des projets. Ok, on va faire ceci ou cela ou autre. Mais il y a un événement qui survient, qui raccourcit tout. Parce que pour lui, maintenant c'est fini, Jésus va revenir. Il se réveille, en quelque sorte, dans le bon camp, nous pensons. Et c'est là qu'il faut que nous réfléchissions bien sur cet aspect du temps. Quand la Bible dit que Jésus revient bientôt, on ne parle pas du chronos, parce que le chronos, c'est un temps, de toute façon, qui est aussi limité. Mais la Bible parle sur le temps kairos. Attention, parce que vous pouvez être surpris. Et quand vous êtes surpris, c'est trop tard, la plupart du temps. Donc voilà pourquoi il y a une mise en garde terrible de la part de la parole de Dieu. Attention, je viens bientôt. Ça ne va pas tarder. C'est une réalité à l'échelle de la prophétie apocalyptique. Nous y reviendrons sur cet aspect-là. Maintenant, écoutez bien, c'est avec Daniel que commence le kairos décisif et il annonce que Jésus revient bientôt. Regardons le messager, ce messager-là, les caractéristiques de cet homme en tant que prophète. Et remarquez bien ça, hein. Et c'est une remarque que je fais exprès. Daniel et Jean, qui sont des prophètes de la prophétie apocalyptique, sont exilés, qui ne sont pas en territoire d'Israël. Ils vont devoir être serviteurs, mais sans la religion autour. Autrement dit, tout ce qu'ils vont devoir faire vont être fait à partir de décisions qu'ils vont prendre sans la religion. Il n'y a pas de religion, ils sont isolés. Il n'y a pas de cadre autour. Alors regardons ce que j'ai posé ici et j'ai mis tout en même temps, les 7 caractéristiques du prophète Daniel. Je regarde juste quelque chose, ça a dû décaler. Ok, en fait il y a 7, hein, mais bon, le paramétrage des ordinateurs ne se trouve pas être pareil. D'abord, 1, Daniel vit à en lui-même une droiture morale. Chapitre 1 pose déjà la base. Okay? Il choisit d'obéir à la loi de Dieu. Non, il ne va pas se souiller avec les mets du roi. Mais vous remarquez que la droiture morale de Daniel, c'est-à-dire la position qui l'amène à rester pur, provient d'une décision, et d'une décision personnelle, et non pas d'un rituel. C'est-à-dire, je décide de m'abstenir des mets que le roi nous donne. Pourquoi ? Parce que si je le fais, je suis souillé. Et vous remarquez, hein, que la religion n'a rien à voir là-dedans, que c'est véritablement une décision qui est tout à fait personnelle. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, nous pensons que la pureté, ou c'est ce que les religions enseignent, que la pureté, l'obligation de ne pas se souiller, est en rapport avec tout un rituel. Il n'y a pas de rituel ici, c'est de l'ordre de la décision. Et nous commençons déjà à tracer le profil de l'Église adventiste. Que la pureté dans l'Église adventiste ne procède pas de rituels. Aucune sainte scène ne vous rendra pur. La pureté chez chaque adventiste procédera d'une décision personnelle par rapport à la loi de Dieu. Je m'engage personnellement. Okay? Et dans ce sens, vous voyez que Daniel est très contemporain de nous parce qu'il montre plutôt une spiritualité moderne. Ensuite, normalement, voilà, la deuxième caractéristique du prophète, il est supérieur en intelligence et en sagesse. La Bible nous dit 10 fois plus, mais 10 fois plus, 10, c'est un chiffre symbolique. Hein. 10 exprime toujours un maximum, quoi, en quelque sorte, hein, mais dans l'expression du minimum. Quand, par exemple, vous rendez la dîme, hein, vous donnez, c'est le minimum que Dieu vous demande, la dîme, okay, mais en rendant un dixième, c'est comme si vous avez tout retourné à Dieu. C'est comme si vous avez retourné les 100%. Okay? Donc, le chiffre 10 est un chiffre qui exprime la totalité. C'est pour dire qu'ils sont intelligents, ils ont cette intelligence du temps, cette sagesse. L'intelligence, c'est la faculté de pouvoir comprendre par rapport à Dieu. La sagesse, la faculté de pouvoir appliquer, prendre des décisions par rapport à Dieu. Ça, c'est une caractéristique du prophète. Le prophète qui comprend, et le prophète qui applique aussi. Troisième caractéristique du prophète apocalyptique, le rôle de la prière. Regardez, dès qu'un problème se pose, immédiatement, Daniel cherche le secours dans la prière. Et il appelle les autres, il appelle la solidarité. Et là, on va dans les requêtes, Dieu répond, action de grâce, immédiatement, Dieu exauce. Ça, c'est la caractéristique du prophète apocalyptique. Le secours est cherché dans la prière. Quatrième caractéristique, Daniel est capable d'interpréter et il fait une interprétation prophétique à partir de l'histoire. Car vous remarquez bien, lorsque la statue de Daniel apparaît dans le rêve, personne ne peut ni donner le rêve, ni même expliquer. Daniel explique. Et qu'est-ce que Daniel explique ? Le déroulement de l'histoire, mais de l'histoire qui se vit réellement sur la terre, non pas une histoire cachée. Voilà pourquoi l'autre caractéristique qui va venir un peu après va être important pour nous. C'est-à-dire, l'Église adventiste, si nous reprenons toutes ces caractéristiques, c'est-à-dire notre droiture morale, mes amis, doit venir non pas de ce que l'Église décide, mais de notre capacité à pouvoir prendre des décisions en faveur de la loi de Dieu dans l'obéissance. Une supériorité de l'intelligence et de sagesse dans un monde où l'intelligence est en train de décliner. Le rôle de la prière, le rôle que la prière doit prendre en notre sein, pas seulement la requête, mais aussi l'action de grâce. Et la capacité de comprendre les événements qui se déroulent sous nos yeux à la lumière de la prophétie. C'est ça que Daniel fait. La caractéristique suivante, c'est le test de la santé. Okay? Et le rôle que la santé joue chez Daniel. Okay, ça va jouer un grand rôle. Vous pouvez, sans trop de peine, pouvoir appliquer ça aussi à notre Église. Dans l'Église adventiste, le rôle de la santé a une place prépondérante. Il faut le savoir, que nous ne vivons pas comme n'importe qui, comme n'importe quel chrétien. Nous avons des restrictions, mais ce n'est pas tant ça, quoi. Nous avons un mode alimentaire, nous avons une diététique, et c'est tant mieux. Okay. L'autre caractéristique, c'est l'information officielle. Qu'est-ce que je veux dire par l'information officielle ? Simplement ceci. Mes amis, et là, il va falloir qu'on règle les choses bien ensemble. Expliquer la prophétie va demander à l'Église, pas au pasteur ou au prédicateur, va demander à l'Église de toujours utiliser ce qui est officiel au niveau de l'histoire. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ne connaissent pas la prophétie, ils vont contrôler. Si vous leur donnez une information qui est dans le bunker, qui est cachée quelque part et qui est incontrôlable, invérifiable, cela risque d'avoir des conséquences sur votre crédibilité en tant que croyant de la Bible. Je vais vous donner un exemple très rapidement. Prenons les attentats ou l'attentat du 11 septembre, okay, 2001. Il y a deux versions là-dessus. Vous avez la version de Ben Laden qui initie cela, et puis vous avez l'autre version, la version de ceux qui contestent justement cette version, que comme quoi George Bush, les États-Unis même, etc., sont derrière, etc. Les Juifs, il y a une autre version comme quoi les Juifs sont derrière, etc. Bon, vous avez une thèse, dites la thèse complotiste, c'est-à-dire je refute l'information officielle et je vais chercher d'autres informations. Mes amis, c'est là où la parole de Dieu et Ellen White nous met en garde. Faites attention que le monde ne nous assimile pas à ceux qui épousent les thèses complotistes. Pourquoi ? Parce qu'il y a sans doute des choses qui sont vraies dans ce qu'on avance. Mais si l'information n'est pas vérifiable, si l'information historique n'est pas vérifiable, ne l'utilisez pas. Parce que sinon, on va vous accuser d'être une secte qui tire ses sources, on ne sait pas trop où. Et cela, ce n'est pas la prophétie. Vous savez, je peux vous sortir des documents qui vous disent que des hommes sont en train de cloner des hommes. Je peux vous sortir des documents qui vous montrent qu'on est en train de prendre possession du cerveau des humains. Ça existe. Mais c'est ni vérifiable, okay, ni appuyé par quoi que ce soit. Alors, imaginons même que ce soit vrai. Je reconnais que c'est très intéressant. Je reconnais quand on entend ça, ça fait quelque chose, mais s'il vous plaît, okay, faisons comme Daniel et Jean. La prophétie apocalyptique utilise l'histoire officielle. Et c'est largement suffisant pour pouvoir expliquer le monde, comment ça avance. Voilà les caractéristiques de Daniel que nous retrouvons dans l'Église adventiste. Okay? Donc ça veut dire que si nous allons nous-mêmes en octobre vers ce genre de démarche, voilà, il va falloir mettre sur la table des choses avec des sources que les gens, s'ils viennent nous dire « Où tu as pris ça, toi ?» Il faut que nous soyons capables de donner des informations, des sources crédibles, des références crédibles. Sinon, mes amis, nous allons avoir des gens qui aiment ce genre d'informations qui vont nous suivre, mais nous devons toucher presque la majeure partie de la totalité des auditoires. Pensez à cela, que des gens aiment ce qui est clair. Et nous devons être clairs, et pour ne pas dire honnêtes quelque part. OK ? Voilà. Écoutez, quand cela a été dit, lorsque Dieu met en place le système de la prophétie apocalyptique, il va intégrer là-dedans le prophète précurseur. C'est-à-dire, puisque vous avez vu sur la frise tout à l'heure, Jésus vient deux fois. Dans ce système prophétique qui va de Daniel au retour, Jésus vient deux fois. Il y a deux apparitions de Jésus vers la terre. La première venue et la deuxième venue. Ça, ce sont des choses qui s'intègrent dans la prophétie apocalyptique. Qu'est-ce que Dieu va faire dans ce schéma prophétique? Il va intégrer un système de précursion. C'est-à-dire, puisque Jésus vient deux fois, à deux reprises, Dieu va faire précéder la venue de Jésus d'un précurseur. C'est ce que nous avons dans le texte qui a été lu tout à l'heure, Malachie 4, verset 5. On peut reprendre ce texte-là ensemble? Allez, on y va. Malachie, chapitre 4, et le verset 5. Malachie, dernier livre de la Bible, chapitre 4, verset 1er. Quel est l'événement qui se trouve dans ce texte? C'est le retour de Jésus. Verset 1er. Et dans ce même verset, on nous parle du sort des méchants. La destruction définitive, le jour qui vient, les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Pas de racine, pas de rameau, ça veut dire définitive. Verset 2. On nous parle de la restauration finale par le soleil de la justice, la guérison totale, c'est la restauration. Okay. Verset 3, on revient sur la destruction finale. Le verset 3 se termine par ce jour, le retour de Jésus. Le verset 4, attention, le peuple qui sera là au retour de Jésus tient compte de la loi. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Verset 5, le texte qui nous intéresse, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Loi et prophète. Hein, vous retrouvez ces deux systèmes-là dans le livre de l'Apocalypse. Je vous enverrai Élie le prophète avant, ça veut dire qu'il précède, précurseur, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc, quand on nous parle d'Élie le prophète, on nous dit qu'il y a un système de précursion. Avant que Jésus revienne, il y a Élie qui apparaît. Mais voilà que, alors qu'on nous parle du retour de Jésus, la fin du temps de grâce en quelque sorte, mais voilà que Jésus a appliqué ce texte à Jean-Baptiste. Est-ce que cela vous surprend que Jésus l'ait appliqué à Jean-Baptiste dans Matthieu 17? Jean-Baptiste dit, c'est lui l'Élie qui devait venir. Oui, ça nous surprend parce que Jean-Baptiste n'est pas à la fin du temps de grâce. Non, ça ne devrait pas nous surprendre. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est un contemporain de nous. Autrement dit, donc, Jean-Baptiste va créer une lignée qui va permettre à l'action de Jean-Baptiste de durer à travers les siècles. Et le schéma que je mets devant vous, je le fais directement sans animation, c'est ceci. Regardez bien ce que Jésus dit. Élie va apparaître à la fin du temps de grâce. À la fin du temps de grâce. Seulement, on nous dit que ce Jésus-là, il vient deux fois. Il vient une première fois, il vient une deuxième fois. Et avant sa première venue, il y a un prophète. Jésus nous dit, c'est Jean-Baptiste. Avant sa deuxième venue, il y a un prophète. Une interrogation. Qui est ce prophète? Okay. Puisque la venue de Jésus est toujours précédée par un prophète précurseur. Pour la première venue, c'est Jean-Baptiste. Pour la deuxième venue, c'est qui? Regardons les caractéristiques de ce prophète-là, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Là, je vous amène à feuilleter un petit peu la Bible ensemble. Hein, okay. Première venue, le prophète Jean-Baptiste. Regardez bien Jean-Baptiste. Oh. Rempli du Saint-Esprit. Luc, chapitre 1, le verset 15. Venez avec moi, Luc. Le prophète qui doit précédé la venue de Jésus doit être rempli du Saint-Esprit. Luc, chapitre 1er, le verset 15. Voici ce que l'ange dit concernant Jean-Baptiste. Verset 15. « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Regardez bien l'autre caractéristique de Jean-Baptiste, le prophète. Il ne consomme pas de boisson alcoolisée. L'autre caractéristique de Jean-Baptiste que j'arriverai à lire. Ok, on ne prendra plus les textes, hein, mais vous avez vu là-dedans. Jean-Baptiste ne s'habille pas comme les autres personnes s'habillent. Il a une philosophie du vêtement. Il y a une autre caractéristique encore chez Jean-Baptiste, c'est qu'il ne se nourrit pas comme tout le monde se nourrit. Il y a une distinction dans le port des vêtements. Il y a une distinction dans la façon aussi de se nourrir, des caractéristiques qui sont là. Okay? L'autre, Jean-Baptiste a un message qui est christocentrique, c'est-à-dire quand Jean-Baptiste parle, il parle toujours de Jésus. Et il est crédible. On ne lui demande pas de prouver ce qu'il dit quand il parle de Jésus. Regardez, bon, on va le prendre. Jean chapitre 1er, verset 36-37, avec le mélange que vous avez ici. Jean chapitre 1er et le verset 36-37. Ok. Alors voici comment Jean prêche. Jésus a dit que c'est le plus grand de tous les prophètes. Jean chapitre 1er verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Quand Jean-Baptiste parle de Jésus, il braque ses yeux sur Jésus. Il regarde Jésus. Ça c'est la caractéristique de l'église adventiste normalement. Quand on parle de Jésus, et si on veut parler de Jésus avec puissance, il faut regarder Jésus. Regardez le verset 37, l'effet est immédiat. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Voilà donc Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il prêche Jésus. Mais quand il prêche de Jésus, il est tellement convaincant, il est tellement crédible qu'on ne lui dit pas, mais prouve-moi ce que tu dis, montre-moi dans la parole de Dieu ce que tu dis là. Ok? Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, pensez bien, il y avait plein de faux messies qui étaient apparus, qui étaient venus d'arriver de tous les côtés. Alors Jean-Baptiste arrive, mes amis, ce prédicateur est tellement puissant. Quand il parle de Jésus, personne ne remet en doute ce qu'il dit. On ne lui demande pas, prouve-moi ce que tu dis. Non, pourquoi ? Et parce que c'est ça, moi je pense que l'adventiste, chaque adventiste doit arriver. C'est-à-dire quand vous parlez de Jésus, vous êtes tellement crédible que les gens n'ont même pas besoin de vous demander des preuves. C'est ça, la puissance de Jean-Baptiste qui doit être la puissance de l'Église adventiste. Et il y a autre chose aussi maintenant. Sa légitimité est contestée par la religion officielle. Jean, chapitre 1er, on va le prendre. On est déjà dans Jean, il y a 4 ou 1 page. Jean, le chapitre 1er et le verset 19-25. Si nous regardons bien les caractéristiques, ce sont des caractéristiques à laquelle l'Église adventiste adhère. Mes amis, on a intégré ces principes dans notre message. Regardez bien. Un, rempli du Saint-Esprit. C'est ce que l'Église adventiste recherche. On veut une Église remplie du Saint-Esprit, combien de fois on n'a pas prié pour que notre Église soit animée du Saint-Esprit. Alors, ça a marché ou pas? Ok. La boisson alcoolisée. Ok. Convaincu ou pas? Et pourtant, c'est bien un processus qui se trouve dans le principe de l'Église adventiste. Les vêtements, une philosophie. Le message christocentrique. Okay. Et il y a un autre point, la légitimité contestée par la religion officielle. Mes amis, quand je regarde Jean-Baptiste, j'ai l'impression de voir un adventiste. Mais un vrai adventiste comme nous. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Regardez. Verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » On lui demande son identité. Comme ce matin, comme tout à l'heure, j'ai posé la question d'emblée. Mais qui sommes-nous ? Est-ce que le messager est clair ? Le message est peut-être clair, mais pas toujours le messager. Et quand on pose la question à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il répond ? Verset 20. Il déclara et ne le nie à point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Voilà comment il définit son identité, parce qu'il n'est pas. Verset 21, ils lui demandèrent, quoi donc ? Es-tu Élie ? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète ? Il répondit, non. Et lui dirent alors, mais qui es-tu ? afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? J'aime bien ce texte, hein, parce que je vous dis, ce n'est pas facile de définir l'Église adventiste. Nous retrouvons les caractéristiques à la fois de Daniel et les caractéristiques de Jean-Baptiste dans nos principes. Mais pour autant, la plupart du temps, on nous définit par ce que nous ne sommes pas, par ce que nous ne faisons pas. Ah oui, vous les adventistes, donc vous, okay, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous n'allez pas, voilà, comme si on se définit toujours par des interdits et des restrictions. Okay. Pour dire que le problème de l'identité, on comprend, n'est pas facile à définir. Mais si ce matin, on peut faire un petit pas, un petit progrès là-dessus, verset 25. Ils lui firent encore ces questions. Mais pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Et là, qu'est-ce que vous avez ici ? On remet en question la légitimité de Jean-Baptiste à faire quoi que ce soit de religieux ou de spirituel. Et ça, c'est la situation que l'Église adventiste connaîtra tôt ou tard. C'est que sa légitimité sera remise totalement en question par la religion officielle. Okay. De quel droit vous faites ça, vous ? Vous êtes une secte, vous êtes une minorité, vous êtes ceci ou cela. C'est là qu'il va falloir ne pas perdre pied au niveau de son identité, parce que c'est facile de perdre pied avec des gens qui vont mettre la pression en face de vous pour que vous arriviez à définir. Et ce n'est pas facile pour Jean-Baptiste. Je vous pose une question. Quand on lui dit « Es-tu le Christ ?» Qu'est-ce qu'il a répondu ? Non. Est-ce qu'il a répondu juste et vrai ? Oui. Quand on lui dit, est-ce que tu es le prophète qui doit venir, c'est-à-dire Élie, qu'est-ce qu'il a répondu ? Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai ? Attention, hein ? Hein ? Pourquoi à demi ? C'est faux ! Parce qu'il est bien l'Élie qui doit venir, nous sommes d'accord. Mais mes amis, cela, on peut comprendre, cela aurait pu paraître prétentieux, okay, de dire... comme cela, face à la religion officielle, que je suis l'Élie qui doit venir. On comprend l'homme comme il est. Parce que nous-mêmes, regardez, si je dois exposer ici, mais qu'est-ce que l'Église adventiste ? Nous serions peut-être effrayés entre nous, nous pouvons le partager, mais effrayés de mettre ça devant la société. Les gens vont dire, mais vous êtes prétentieux, vous êtes arrogant, vous êtes orgueilleux, vous êtes plein de vous-même. Parce que comme s'il y a une vérité qu'on ne peut pas communiquer comme telle, en quelque sorte. Donc on est obligé presque de vivre comme la minorité que nous sommes, presque en marge, quoi, marginalisé comme nous sommes. Et voilà, remarquez bien que vous retrouvez chez Jean-Baptiste les caractéristiques de l'Église adventiste. Comme tout à l'heure, les caractéristiques de Daniel, prophète apocalyptique, on peut le retrouver aussi au sein de l'Église. Et alors, okay, deuxième venue de Christ. Ces caractéristiques-là sont portées par un mouvement qui est prophétique. Alors, cela peut être troublant. Et je comprends les gens qui me disent, qui me l'ont dit, mais moi je ne comprends pas l'Église, les gens qui sont chez nous-mêmes, hein, le trouble qu'ils peuvent avoir. Mais la religion n'interdit pas de manger, de boire ou de s'habiller. Oui, je lui dis, ils ont raison. Si quelqu'un vous dit, mais la religion n'empêche pas de boire, de fumer, de s'habiller comme on veut, d'aller danser. Mais effectivement, je ne connais aucune religion qui interdit cela. Okay. Seulement, voilà, c'est que l'Église adventiste n'est pas une religion. C'est un mouvement prophétique, c'est-à-dire l'Église adventiste est un prophète. Et à un prophète, Dieu demande toujours plus de sacrifices que pour les autres. Un prophète, il va avoir des caractéristiques particulières. Les principes de l'Église adventiste ne sont pas les principes d'une religion. Même, et pourtant, on les prend dans la parole de Dieu. Mais les autres, alors, ils ne comprennent pas ça. Non, ce sont les principes qu'on applique à un prophète, à un mouvement de prophétie apocalyptique et à un prophète précurseur. Voilà pourquoi vous avez tous ces principes qui arrivent et qu'on ne comprend pas. Mais pourquoi les autres, alors, ils sont plus bêtes que nous ? Pourquoi les autres chrétiens, ils vivent comme ça ? Ils n'ont pas tout ça, tous ces interdits. Chez nous, il y a ça. Parce que c'est ça, mes amis. C'est sans doute ça. C'est redoutable, ce qui repose sur nos épaules. Mais c'est bien cela qu'il s'agit. Et j'aurais presque peur, presque timide à dire quelque chose comme ça, tellement ça paraît énorme. OK ? Alors, l'adventisme, donc l'image est décalée, vous avez compris. Okay. L'adventisme est un prophète. Ce n'est pas une religion, c'est un prophète. C'est un mouvement prophétique qui ne sera pas reconnu plus tard par la législation officielle de la religion. Mais nous sommes un mouvement prophétique où nous retrouvons chez nous les caractéristiques de Daniel et de Jean-Baptiste. Daniel, par le message prophétique apocalyptique, parce que rappelez-vous bien comment ça, l'Église adventiste a commencé avec le texte de 2300 soir et matin de Daniel, chapitre 8. Et les caractéristiques de Jean-Baptiste se retrouvent chez nous en tant que prophète précurseur de la deuxième venue de Jésus. On retrouve les deux sens de prophète au sein de l'Église adventiste. Nous sommes donc prophètes à double niveau, dans le lignage de Daniel, par le message prophétique de l'Église adventiste, à un message prophétique apocalyptique, et dans le lignage de Jean-Baptiste, nous avons un message christocentrique d'un prophète qui précède Jésus. L'Église adventiste a été suscitée pour précéder, pour être le précurseur de la deuxième venue de Jésus. Et cela amène des sacrifices, mes amis. Ça amène à vivre différemment de toutes les religions qui existent, de tous les modes de spiritualité qui existent. Et nous avons dans l'histoire, il ne faut pas croire que l'histoire de l'Église adventiste s'est posée comme ça, on a vu ça dans la Bible, hop, on a appliqué ça. Non, ça s'est fait dans l'évolution du temps. Okay. En 1844, l'Église adventiste prend la lignée de Daniel et de Jean, parce que Daniel et Jean sont ensemble,